Je voudrais lire en préparation pour le message, Jacques chapitre 1, versets 6 à 18. Le message n'est pas sur ce texte, mais ça entre dans toute cette idée du livre de Lévitique. Aujourd'hui, on va voir le livre Lévitique. Jacques chapitre 1, versets 16 à 18. Jacques 1, 16 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Donc, il ne parle pas aux non-chrétiens. Il parle à nous qui sommes chrétiens. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. OK, donc le point ici, et on est né de nouveau par le Dieu créateur. Ce Dieu créateur, il ne change pas. La seule chose qui a changé, c'est que ce Dieu créateur saint, il est devenu un homme et il est mort pour nos péchés. Donc, ce qui a changé, c'est que Dieu n'est plus en colère avec nous à cause de nos péchés, parce que Jésus a payé pour tous nos péchés. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu. Il est donc bienveillant, il veut bénir. OK? Donc, c'est ça qui a changé. OK? Donc, voilà, arrière-plan pour la pensée, on parle du livre de Lévitique. C'est une survol. Il y a plein de choses, les détails presque à l'infini dans ce livre. Et nous n'allons pas voir toutes ces choses-là. Certaines parties de ce message sont basées sur le dictionnaire biblique. Donc, je voulais dire, bon, Lévitique, ça fait partie de la loi. Et nous ne sommes plus sous la loi et nous ne pratiquons pas la religion juive. D'accord. Néanmoins, il reste vrai qu'il y a d'importantes ressemblances entre le livre de Lévitique et l'enseignement du Nouveau Testament. C'est ça un peu que je vais faire, les comparaisons, les contrastes, un peu les choses ce matin. Lévitique est le livre qui enseigne « Soyez saints » et qui enseigne « Aime ton prochain ». Mais non, ça, c'est pas dans l'Ancien Testament. Oui, c'est là, dans le livre de Lévitique. « Soyez saints, car Dieu est saint. » 56 fois dans ce livre, on trouve le mot « saint » ou des formes de ce mot « saint ». Lévitique, chapitre 20, verset 26. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. » Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Il a dit ça aux Juifs. Bon, vous connaissez toute l'histoire de l'Égypte et tout ça. OK? Mais ce n'est pas tellement différent pour nous. En 1 Pierre chapitre 1 et versets 15 et 16, donc je vais les lire, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Il a pris ça dans Lévitique. D'accord? Dans Jean chapitre 17, Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Donc, il parle des croyants, les gens qui vont croire en Jésus, les disciples, et puis ceux qui vont croire plus tard, comme vous et moi. Jean chapitre 17, donc c'est le verset 15 à 20. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Donc ils mettent une distinction, une différence entre nous, les croyants en Jésus-Christ, et le monde. Ou peut-être on est citoyen de la France, ou pas. Mais notre vraie patrie, c'est où? Dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc Jésus a prié, sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie, ça veut dire les rendre saints. Soyez saints. Dieu nous sanctifie à travers sa parole, par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, c'est tous l'idée de Lévitique. Hein? Soyez saints, car Dieu est saint. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, ça, c'est l'évangélisation jusqu'à la fin. OK? Aussi, donc j'ai dit que voilà, dans ce livre de Lévitique, on trouve cette idée, soyez saints, mais on trouve aussi, aime ton prochain. Aime ton prochain, pourquoi? Parce que Dieu est amour. Ça, c'est dans Lévitique, chapitre 19, verset 18, aime ton prochain. Dans 1 Jean, chapitre 4, nous lisons, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. On aime cette partie-là, ça c'est encouragement, n'est-ce pas? Mais attention, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Ça, on parle de Noël. Il a envoyé. Avec un objectif, une mission, de faire quoi? De mourir sur la croix pour nous rendre saints, pour nous justifier, pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu. Afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, le livre de Lévitique, c'est plein de choses à propos des sacrifices et des offrandes. Il y a plein, plein, plein. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Jésus a dit, ça résume la loi, hein? Aimer Dieu et aime ton prochain. Ou aimer ton prochain. Donc, le thème du livre de Lévitique, s'approcher au Dieu Saint et rester en communion avec le Dieu Saint. La justification est la porte à la communion avec Dieu. C'est la porte à la sanctification qui suit notre justification. Le moment qu'on croit en Jésus-Christ, on est justifié. Mais ça ne veut pas dire qu'on marche avec Dieu. On croit en Jésus-Christ, Dieu nous purifie, il nous pardonne, il nous donne la vie éternelle. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dormir. Non, on va vivre. On va vivre la nouvelle vie que Dieu a mise en nous. Quelle est la volonté de Dieu? Que l'homme passe par la porte étroite et qu'il marche sur le chemin resserré. Jésus a dit, je suis la porte. Il a dit, je suis le chemin. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, entrez par la porte étroite et continuez sur le chemin resserré. Donc, à bien comprendre, le salut est gratuit, mais le salut donne gratuitement une vie spirituelle, une vie qui continue et qui se met en œuvre, qui est agissant, une vie de communion avec Dieu. Le Nouveau Testament enseigne aux chrétiens comment plaire à Dieu. Ce n'est pas comment s'acheter, racheter son propre salut. Ça, Jésus a déjà fait. Mais par le Nouveau Testament, Dieu nous apprend comment plaire à Dieu. Je lis dans 1 Jean, chapitre 3. Notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et puis je saute au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Quelle tristesse. Ça ne veut pas dire, comme l'autre verset, que la personne qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, donc ce n'est pas sauvé. Mais ça dit que le chrétien qui prétend être chrétien, mais qui n'aime pas l'autre, eh bien, il ne met pas en pratique le salut que Dieu lui a donné. Et là, c'est triste. Alors, le livre de Lévitique présente de nombreux sacrifices. Pas un seul, mais il y a comme 6 sacrifices principaux qui sont décrits là-dedans. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, nous lisons « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. » Il fallait que Jésus meure sur la croix, qu'il verse son sang. Il y a plein de sacrifices dans l'Ancien Testament, c'était les préfigurations pour le sacrifice final, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, les sacrificateurs et les sacrifices n'étaient que l'ombre promettant le Christ, le Sauveur futur. Nous lisons dans Hébreux chapitre 8, les sacrificateurs de la loi célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. La vérité est dans la présence de Dieu. Et ces choses-là étaient temporaires. Donc, Moïse devait reproduire les choses d'après qu'il a vu dans la vision céleste. Mais tout ça, pourquoi? Pour donner une idée future que Dieu allait enlever tous nos péchés. Il dit dans Hébreux 10 que la loi possède une ombre des biens à venir. Elle n'est pas l'exacte représentation des choses. Donc, les Juifs avaient focalisé sur les détails dans la loi et oublié que la loi n'était qu'une représentation de ce qui était dans la réalité éternelle. On appelle ce genre d'illustration des types, c'est-à-dire des illustrations prophétiques concernant Christ. Donc, quand on lisait ces choses il y a 3000 ans, par exemple, on ne voyait pas, on ne comprenait pas. Mais après que Christ est venu, eh bien, on commençait à voir les relations entre ce qui était écrit dans la loi et le Christ et le salut et les marches des chrétiens, etc. Vous vous rappelez, les premiers chrétiens n'avaient que l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas le livre du Nouveau Testament. Alors, le sacerdoce limité et temporaire de l'Ancien Testament a donné place au sacerdoce universel. C'est un point important de nous. Nous croyons, d'après le Nouveau Testament, que nous pouvons nous approcher de Dieu dans la prière. Nous pouvons aller devant le trône de la grâce. Eh bien, ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Nous sommes tous et toutes sacrificateurs de Dieu. Nous avons une prêtrise universelle, sacerdoce universel, qui est permis, qui est la réalité de tout croyant sous la nouvelle alliance. Donc, nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Vous êtes une race élue. Donc, il écrit aux croyants, aux chrétiens du Nouveau Testament. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous, les croyants, êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, nous, les païens, avant on n'était pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Dans Lévitique chapitre 10, au verset 9, Dieu interdit le vin et les boissons alcoolisées aux prêtres qui sont en service et aussi à leur fils, le fils des prêtres, pendant que le Père est dans le service de Dieu. De même, l'ivrognerie est interdite aux chrétiens dans Éphésiens chapitre 5 et verset 18, car Dieu dit que être ivre est de la débauche et que, au contraire, notre vocation en tant que chrétien est d'être le temple du Saint-Esprit. Notre relation avec Dieu le Saint-Esprit qui habite en nous, notre sacerdoce, que je viens de lire dans 1 Pierre, notre communion, que Jean a invoqué dans 1 Jean, notre service à Dieu n'est pas temporaire, mais c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est permanent. C'est comme on a chanté tout à l'heure, on est déjà entré dans notre relation de bonheur éternel avec Dieu et ça continue jusqu'à dans l'éternité. Alors, le livre de Lévitique désigne le plan de Dieu pour l'administration du culte. Donc, il y a un culte de l'Ancien Testament, il y a un culte du Nouveau Testament. Il y a le ministère dans l'Ancien Testament, le ministère dans le Nouveau Testament. Donc, vous savez bien, pour l'Ancien Testament, c'était Aaron et ses descendants. Et bien sûr, c'est Dieu qui détermine comment l'humanité puisse le servir. Ce n'est pas nous qui disons, bah, Dieu, on va te servir comme ça. Ça, c'est la religion. La religion qui est fabriquée par les hommes. Ce n'est pas nous qui dictons à Dieu comment Dieu doit être servi par nous. C'est Dieu qui dit, c'est comme ça que je voudrais que vous fassiez. C'est normal, il est Dieu. Nous sommes que les petits êtres humains. Et comme la religion juive est définie dans l'Ancien Testament, eh bien la religion chrétienne véritable est définie dans le Nouveau Testament. Donc on voit dans chapitre 10, deux hommes qui s'appellent Nadab et Abihu, et eux, ils n'étaient pas contents avec le plan de Dieu pour le culte juif. Et donc, ils ont conçu un plan humain en opposition au plan de Dieu. Ils ont offert, ce que la Bible dit, un feu étranger. Et Dieu ne leur avait point ordonné cet service-là. Donc, Dieu les a brûlés vifs sur le champ. C'est un peu radical. Ça me fait penser à j'ai oublié leur nom maintenant. Dans le Nouveau Testament, oui, Sapphira et son mari. Ah, merci. Ça, c'était radical, hein? Ils ont menti à Dieu. Et c'est tout au début du christianisme, comme c'est tout au début du... Excusez-moi. Tout au début de christianisme et de judaïsme, eh bien, quelqu'un fait un péché grossier comme ça et radical, fini. Heureusement, il ne nous traite pas comme ça aujourd'hui. Hein? Alors, il faut comprendre qu'il y a des qualifications pour le ministère chrétien aussi. Il faut les respecter. On ne va pas le voir aujourd'hui, mais c'est dans 1 Timothée chapitre 3, Tite chapitre 1. Alors, vous savez bien que depuis des siècles, le sacerdoce catholique s'oppose au plan de Dieu. C'est le système nicolaïte que Dieu est. Donc là, vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 2, verset 6. Et plus récemment, il y a de nombreuses églises qui contournent le plan de Dieu afin de consacrer des femmes à la place des hommes en tant que pasteurs et prédicateurs, prédicatrices. Cette pratique est en opposition au plan de Dieu. Dieu attend à ce que les hommes se mettent à son service, chacun selon les dons conférés par le Saint-Esprit. Attention, les femmes ont leur place dans le christianisme, mais les hommes ont leur place aussi. Chacun leur place. Une personne a prié récemment, « Seigneur, quel malheur que les églises s'éloignent de toi, que les femmes remplacent les hommes et que les hommes se retirent en se cachant. » C'est triste pour nous, les hommes chrétiens. N'est-ce pas? Frère, le temps est court et les jours sont mauvais. Une autre personne a prié récemment. Ça m'a fait sourire un peu. Merci Seigneur que Billy est encore debout malgré ses 62 ans. Ça vous fait pas rire? Le point, c'est que nos jours sont limités. Et Dieu pourvoira pour la prochaine génération en se servant des hommes disponibles et qualifié. Mais êtes-vous disponible? Messieurs, soyez disponible au service de Dieu. Alors, le livre de Lévitique, chapitre 11 à 15, nous donne de nombreux enseignements sur l'hygiène. Les enseignements sont assez avancés et sont évidemment une révélation de la part du Dieu créateur pour protéger son peuple. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais le livre aborde des sujets tels que les sources de contagion, la désinfection, la prévention des maladies, la vigilance concernant la nourriture. Pourquoi? Parce que la nourriture malsaine nous rend malades. Donc, pas d'animaux morts, pas de viande périmée, pas d'eau stagnée. Ça, c'est un rapide parcours de cette idée-là. De nos jours, c'est le gouvernement qui va réglementer la nourriture et même les eaux. Hein, quand vous achetez une bouteille d'eau, elle est marquée sur la bouteille, les choses. Okay? C'est le gouvernement qui fait ça. Mais Dieu avait déjà fait ça. Ce n'était pas nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu, il s'intéresse à tout notre être. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23-24, nous lisons que le Dieu de paix vous sanctifie. Voilà le mot principal de Lévitique. Qui vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous savez bien, le corps du croyant est le temple de Dieu. L'Église est considérée le temple de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Mais je vais vous dire que c'est un verset radical. Hein? Faut pas mépriser votre corps. Je vous ai donné un corps, il n'a pas donné un autre corps. Vous êtes ce que vous êtes. Hein? Et donc, voilà ce que vous avez à utiliser dans votre service pour Dieu. Pourquoi Dieu y donne toutes ces règles? Eh bien, la raison pour beaucoup de ces lois, c'est, voilà, je suis l'Éternel. Il dit, voilà, pourquoi? Je suis l'Éternel. Quand il dit, je suis l'Éternel, ça veut dire, je ne change pas. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé, il ne changera pas. C'est nous qui devons changer. Alors, je vais mettre en avant deux exemples qui rejoignent l'enseignement du Nouveau Testament. Il y a l'interdiction de manger du sang et il y a l'interdiction de commettre l'immoralité. Dans le chapitre 17, il y a le sang. Beaucoup de personnes prennent ce principe à la légère. Pourtant, l'interdiction de manger le sang est dans la Genèse et dans la loi est répétée 4 fois dans le Nouveau Testament. Donc, Actes chapitre 15, et vers l'année 85, donne des principes vraiment minimum de base auxquels vont être rajoutés tout le Nouveau Testament. Donc, il y a plein de choses dans le Nouveau Testament qui ne sont pas dans Actes chapitre 15. Okay? Mais il a donné une première pensée. Pourquoi? Pour rappeler aux convertis qu'ils n'étaient plus païens. C'était l'objectif. Vous allez vivre différemment maintenant. Pourquoi? Parce que vous étiez païens et maintenant vous êtes chrétiens. Ils sont entrés par la porte étroite. Ils ont embarqué sur la piste resserrée. Donc, ils ont besoin de se séparer des pratiques païennes malsaines. Par la suite, dans Lévitique 18, aussi comme dans Actes chapitre 15, on invoque la séparation de toute immoralité. Donc, Lévitique 18, et on ne va pas le lire, vous pouvez le lire, ça décrit plein de relations sexuelles malsaines, interdites, abominables. Et puis, vous savez, dans cette liste, il y a l'interdiction que l'homme dans 1 Corinthiens chapitre 5 a commis. Hein, qui a pris sa belle-mère comme sa femme. C'était interdit dans Lévitique chapitre 18. Pourquoi tout ça? Soyez saints car le Seigneur est saint. Dieu ne peut pas nous bénir dans nos péchés. Il veut qu'on marche avec lui, séparé du péché, afin de pouvoir nous bénir. Et puis dans chapitre 19, il y a diverses affirmations du bien et des interdictions de divers péchés et pratiques païennes. Donc verset 1, Dieu est saint. Il dit, je suis saint et voilà ce que j'attends de vous. Donc il y a des pratiques qui sont interdites, telles que la prostitution et la pratique occulte, les pratiques occultes. Et puis il y a plusieurs ordonnances concernant, donc c'est très intéressant, donc respect familial, les offrandes qui sont agréables, agréées ou non acceptables, le respect des pauvres, des immigrés, des personnes âgées, les handicapés. Il y a question de honnêteté personnelle et aussi honnêteté dans nos affaires. Toutes ces choses-là sont traitées dans chapitre 19. C'est ici aussi dans le chapitre 19 que Dieu condamne la mutilation du corps et la pratique de tatouage. Bon, c'est très courant aujourd'hui, le tatouage, n'est-ce pas? Le chrétien ne devrait pas se faire tatouer. Donc, il faut réfléchir à cela. Okay? Alors, si c'est déjà le cas, hein, parce qu'il y a des convertis qui ont déjà tout tatoué, alors que faire? Premièrement, il ne faut plus le faire. Il ne faut pas rajouter des tatouages. Hein? Dieu ne change pas. Donc, si ça lui a gêné dans le passé, ça gêne toujours. Okay? Il ne faut pas les rajouter. Mais aussi, si vous avez comme autre chose qu'il aurait pu avoir dans le passé, eh bien, utilisez ces détails dans votre témoignage personnel comme un élément de votre vie passée. Vous étiez comme ça, et voilà. Et c'est même visible. OK? Ça laisse des cicatrices, quoi que soit vos péchés. Ça laisse des cicatrices, n'est-ce pas? Et donc, vous ne le déconseillez pas aux autres. Hein? Imaginons, il y a des gens qui étaient polygames. Ils avaient plusieurs femmes. Dans le Nouveau Testament ou avant, eh bien, le Nouveau Testament interdit la polygamie. Une femme pour un homme. OK? Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que, voilà, monsieur, il a déjà 6 femmes. Il va les tuer. Non, bien sûr, non. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il ne va rien faire. Mais il va apprendre à ses enfants de ne pas faire les mêmes choses qu'il a fait. C'est comme ça qu'il faut agir dans ces cas-là. Ah, j'ai été comme ça, vous le voyez bien, mais il ne faut pas le reproduire. C'est ça, il ne faut pas le reproduire. C'est aussi dans chapitre 19 que Jésus a cité, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a plein de choses dans le chapitre 19. Ah, il y a une phrase intéressante, vous allez aimer cela, hein? Moi aussi. Il dit, vous aimerez l'étranger en séjour parmi vous comme vous-même. Ça, c'est intéressant. Vous aimerez l'étranger. C'est bien. Pourquoi obéir à la parole de Dieu? Chapitre 19, versets 1 et 2, l'Éternel parle à Moïse, il dit, parle à toute l'assemblée, pas simplement les Lévitiques, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Il revient. Il donne tous ses enseignements dans chapitre 19 et il termine avec ça. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Pourquoi? Je suis l'Éternel. Après, dans chapitre 20, on a le salaire du péché, c'est la mort. Donc, j'ai cité Romains chapitre 3, verset 23. Mais 12 fois, il dit, si on fait telle chose, il faut le mettre à mort, même le brûler, etc. Le salaire du péché, c'est la mort. Lévitique, chapitre 20, versets 7 et 8. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ça reste vrai. C'est le Seigneur qui nous sanctifie. Verset 22. Vous observerez toutes mes lois, toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations, donc les pratiques païennes, que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Donc on ne veut pas offenser Dieu. Donc, on va faire attention à comment nous vivons en tant que chrétiens. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, il ne change pas. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Et puis, dans le chapitre 25, 26, 27, on voit que le temps et la terre appartiennent à Dieu. Qui veut dire que nous appartenons à Dieu, notre vie, notre temps, nos affaires, nos biens, tout ça est à Dieu. C'est lui qui nous confère toutes ces choses. Donc, je résume. Le pardon et la justification du pécheur se fait uniquement par le sacrifice d'un substitut agréé. Vous vous souvenez de Caïn et Abel. Caïn, ce n'était pas agréé son sacrifice. Abel, c'était agréé. Parce que c'était le sacrifice d'un petit agneau, n'est-ce pas? Par la suite, la personne justifiée par la foi doit à Dieu une vie conséquente, une vie sainte, une vie consacrée à Dieu. Il doit à Dieu la louange et la reconnaissance. Et envers les hommes, il doit à Dieu la générosité et l'amour. C'est la même chose pour le christianisme. Grâce à l'évangile de Jésus-Christ, le pécheur est pardonné, il est justifié par la foi, il reçoit la vie de Dieu et la met en œuvre, il la met en pratique. Il est consacré à Dieu, il est reconnaissant, il est généreux, soumis à l'autorité de la parole de Dieu et il aime son prochain. C'est très semblable, ces idées. Okay? Donc la nuit du premier Noël, donc il faut quand même un lien avec Noël. Eh bien, l'ange a annoncé une bonne nouvelle au berger, un message de bonheur qui est le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la vie de David, il est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Le point, c'est que Dieu a fait le nécessaire à partir de sa naissance à Bethléem jusqu'à la croix pour nous rendre saints. Pour qu'on puisse être dans sa présence pour l'éternité. Autrement, ce n'est pas possible. Et c'est Dieu qui a tout fait. C'est pour ça que nous bénéficions par la foi. C'est ça pourquoi Noël est tellement important. Le Dieu Saint, Créateur, est devenu l'un de nous pour nous rendre parfaits, saints, mis à part à Dieu à travers son sacrifice sur la croix. Et bien sûr, l'évangile que Jésus a récupéré sa vie parce que son sacrifice était agréé par Dieu. Donc, il est ressuscité et maintenant, le salut est annoncé dans son nom jusqu'à la fin. Amen. Joyeux Noël.